Orgasme. L'émission à thème musical de Radio Campus Paris. Bonjour mes loulous et bienvenue dans Songasme sur Radio Campus Paris. Le thème de notre cinquième numéro sera électrique et sauvage. Il sera composé de groupes et de musiciens perdus entre deux générations, entre deux espaces-temps, entre utopie et nihilisme, entre l'amour et la destruction. Bienvenue dans le protopunk. Alors, comment définir ce terme un peu barbare de protopunk ? Proto vient de la racine grecque protos, qui désigne ce qui est premier, donc antérieur à. Proto fait référence à l'étape d'une chose avant sa réalisation. Ici, proto correspondra donc à tout ce qui a pu déclencher, influencer l'existence et la réalisation du punk en tant que genre musical. Mais le protopunk n'est pas en soi un genre musical, puisque la catégorisation punk n'existait pas réellement avant 1976-1977. Si le punk n'existe pas, le protopunk n'existe pas en tant que tel. C'est donc une appellation rétroactive. D'où le problème pour classer les groupes. Est-ce que le terme protopunk englobe tous les groupes de rock un peu sauvages ayant sorti des albums avant 1977 ? Est-ce que le Velvet Underground, par son attitude, par sa musique glaçante à contre-courant de la chaleur des hippies, était protopunk ? Pas sûr. On peut s'amuser à voir du protopunk un peu partout, par exemple avec l'efficacité de trois accords bien placés comme chez les Kinks. Ou dans une des chansons les plus courtes des Rolling Stones, She Say Yeah. Ou encore chez Azzy Atkins ou d'autres obscurs tarés du rockabilly. En mélangeant les causes et les conséquences, tout peut devenir protopunk. Et si tout est protopunk, eh ben rien ne l'est. Il faudra donc accepter la subjectivité du terme et se forcer à être un peu précis et ne pas confondre influence et prémisse. Commençons par une année clé, une année charnière, et un single qui fera date dans l'histoire. Nous sommes en 1969, les Beatles font leur dernier concert à San Francisco, à Woodstock les hippies font l'amour dans la boue, et les radios diffusent en boucle In the Ghetto d'Elvis Presley. Et là arrive une chanson composée de trois accords répétés jusqu'à la transe, une intro qui marquera l'esprit du rock à tout jamais, un truc proche de l'explosion nucléaire. The Stooges, avec en chef de file Iggy Pop, qui s'est proclamé lui-même d'ailleurs parrain du punk, ouvre la danse du protopunk. Alors je ne vais pas vous conter les détails de leur biographie ni de leur concert outrancier, la plupart d'entre vous connaissent déjà bien cette histoire. Nous allons plutôt écouter une chanson monstre de leur répertoire et inédite, un concentré sauvage de ce que sera les meilleures chansons punk, I Got a Right, enregistré entre 1972 et 1973. Prémisse punk souvent citée par les journalistes et critiques rock, le garage des années 60, que l'on peut retrouver par exemple dans les excellentes compiles Nuggets de Lenny Kaye, le futur guitariste de Patti Smith, compile sortie en 1972. Et on retrouve d'ailleurs dans les notes du disque plusieurs fois déjà le terme punk rock à propos de ces groupes. Donc c'est sans doute une référence, à mon avis, un petit peu trop évidente et presque surfaite, mais si nous devions retenir qu'un seul groupe de cette florissante période du garage des années 60, ce serait, à mon humble avis, The Sonics. The Sonics pour leur mixage inouï avec leur sax hypnotique et légèrement en deçà de guitares hyper saturées appelant à la folie et au meurtre. L'essence punk me paraît évidente, surtout dans cette chanson Thrashing. Protopunk nous apparaît donc plus comme une essence qu'autre chose. Le protopunk doit avoir quelque chose d'unique, qui sort de l'ordinaire, qui s'oppose au carcan de l'industrie musicale, quelque chose de frissonnant qui se réinvente en se déconstruisant. Et si une ville l'avait bien compris, c'est bien Cleveland, dans l'Ohio, entre 1970 et 1975. Take the guitar, play a full ride. Drôle comme parfois tout peut se passer dans une zone géographique précise. Nous sommes donc à Cleveland, la parenthèse hippie des années 60 se ferme et la musique s'enlise dans le psychédélisme lourd ou dans le rock progressif. Pour un jeune citadin de 17 piges, musicalement, il ne se passe plus rien. Continuer d'écouter les Beatles, synonyme de mort, et le billet d'avion pour aller en Angleterre prendre des amphétamines en écoutant du David Bowie ou du T-Rex est bien trop cher. Il n'y a donc pas d'avenir. Il faut alors remonter ses manches et créer ce qu'il n'y a pas, créer la musique que l'on veut entendre. Et les gens avaient réellement besoin d'une nouvelle musique, une musique reflétant leur réalité, une musique urbaine et alternative, une musique en réaction à. Et parce qu'aucune scène de ce style n'existait alors, le champ de liberté fut immense. Et les choses ont commencé à émerger un peu partout, de façon naïve et spontanée. Le vrai rock indépendant, le rock d'outsider était né. Il y a toujours eu des losers magnifiques, trop cramés, trop purs pour perdurer. Peter Lochner, dont vous venez d'entendre le début de la chanson Life Stink, faisait partie de cela. Une sorte de catalyseur influent de toute la scène à venir. Il était critique musical, guitariste, compositeur, poète, chanteur et défricheur de talent. Peter Lochner fut à l'origine d'une dizaine de groupes de l'époque, de Rocket from the Tomb à Père Ubu, et a eu une très grande influence, nous allons le voir, sur toute cette petite nouvelle scène de Cleveland. Peter Lochner est mort en 77 d'une pancréatite aiguë, en pleine explosion de ce qu'il avait ironiquement allumé. Ambitieux mais sans un sou, précurseur mais alcoolique, Peter Lochner et ses groupes ne laissèrent que très peu d'enregistrements, quelques démos et bootlegs ici et là. Il fallait donc être présent pour assister au vol de cette étoile filante. Très peu de traces, mais beaucoup de sensations. En 1974, il forma avec des futurs mecs de Père Ubu et des Dead Boys le groupe Rocket from the Tombs. Après une douzaine de concerts, le groupe splitta un an après. Seule trace matérielle restante, un live considéré comme le Saint Graal du punk. Just like us, when it's dead and gone,
washer machine. Agitated, I'm so agitated. I'm so convoluted, I don't know what I know. But I just like to shoot it, and it's 5 a.m. And I'm crawling the walls, just waiting for imaginary telephone calls. And I'm so agitated, so agitated. I'm so agitated, I'm so agitated. You know what I think? I think the whole world stinks, and I don't need no shrink, I just hate it.
Aucun label, aucun pont de l'industrie musicale ne s'intéressait à ces nouveaux groupes. Ils mirent 6 ans avant de se dire que cette musique pourrait leur ramener du fric. Sans label, le terrain était donc totalement vierge, idéal pour les têtes brûlées. The Electric Eels faisait partie de ces profonds tarés psychotiques à qui on a donné l'occasion de prendre des guitares. N'ayant fait que 5 concerts le long de leur courte carrière, ils étaient surtout connus pour aborder dès 1972 des croix gammées sur leurs vêtements et être à l'origine de bastons alcoolisés finissant parfois par des morts. Sans s'en rendre compte, un autre groupe de Cleveland, en triturant leurs guitares et leurs amplis, inventait par la liberté de l'expérimentation une sorte de stoner lourd et intense, précurseur d'une certaine noise des années 90. Le groupe s'appelait Mirrors et ont sorti ce single, leur unique single, en 1976. Grosse claque. Allons un petit peu plus loin que Cleveland et partons dans l'Oklahoma et évoquons le groupe Debris qui porte magnifiquement bien son nom. Influencé autant par les Stooges, Captain Beefheart et la musique bruitiste, les Debris lancèrent l'ère du Do It Yourself. Ils enregistrèrent en 1975 l'album Static Disposal Us en 6h30 pour un budget de $1,500, c'est-à-dire rien du tout. Ils envoyèrent leur album un peu partout, espérant trouver des dates de concert, mais ils n'essuyèrent que des refus. Ils se séparent, découragés. Le destin dans le rock'n'roll est un enfoiré, est un sadisme effroyable, car un peu moins d'un an après leur séparation, les groupes punk se succédaient dans le célèbre club new-yorkais CBGB. Illy Crystal leur passa un coup de fil pour les inviter à venir jouer, mais les débris étaient brisés en deux, c'était déjà trop tard. Écoutons pour se consoler la chanson One Way Speed, extrait de leur premier single. Les agitateurs du protopunk furent des pépites. Sans aucune volonté de succès et de reconnaissance, ils forgèrent les bases du rock indépendant et du punk. Jouer, écrire et créer le plus vite possible. Faire de la musique une matière vivante, malléable et la consommer jusqu'à l'os. Ne pas attendre l'industrie musicale, ne pas attendre d'apprendre à se servir de cet instrument, mais retourner à une efficacité pure, une énergie de l'instant, créé par et pour les outsiders. Le punk appartient maintenant à l'histoire. À nous de créer le nouvel avenir.